Mémoire et paysage. Une série de 66 entretiens de Sylvain Faure avec André Tuboeuf. Aujourd'hui, épisode 50. Membre du cabinet de Jacques Duhamel, puis de Michel Guy.
André Tuboeuf, après avoir parlé longuement de votre activité d'enseignement à Strasbourg, on va en venir à une période un peu spéciale qui en fait commence en 1972 lorsque vous rejoignez le cabinet du ministre de la Culture, on dit déjà de la Culture.
Non, on disait des affaires culturelles.
Des affaires culturelles, qui à l'époque était
Jacques Duhamel.
Et qui vous fait sortir de Strasbourg, parce que évidemment ce poste est à Paris, mais vous conservez vos fonctions, votre enseignement strasbourgeois, n'est-ce pas ?
Absolument.
Et cette sortie de Strasbourg va se faire par le biais du cabinet et va entraîner toute une série de conséquences qui vont vous amener à entamer d'une certaine façon une carrière nouvelle dans le domaine musical, dans le domaine de la critique, de l'écriture. Mais la première question, c'est comment avez-vous rejoint ce cabinet de Jacques Duhamel ?
Eh bien, je dois dire de la façon la plus inopinée. De la façon la plus inopinée, Jacques Duhamel était depuis mon très jeune temps à Paris un ami, non pas intime, mais enfin un ami. Mais j'étais réellement l'ami intime de sa sœur jumelle, qui était Monique Fonck-Brentano, avec qui j'avais passé des heures et des heures et des heures à chanter du Schubert et du Brahms, avec elle au piano. Enfin, ça c'est un chapitre tout à fait précédent. Et il s'est trouvé ceci, que Jacques Duhamel, qui était ministre des Affaires culturelles, avait été prolongé dans un nouveau ministère, et dans l'attente d'une nouvelle législature, parce qu'il devait y avoir des élections quelques mois plus tard, six mois plus tard simplement. Et tout le monde savait qu'il allait quitter le ministère, car il était déjà atteint par la maladie absolument orpheline qui l'a emporté cinq ans plus tard. Et donc, il avait déjà des difficultés de démarche, des difficultés d'élocution terribles, et que les médisants enfin, attribuaient, je dirais, à l'alcool, ou cette bouche embarrassée, enfin, qui passait très mal à la télévision, bien entendu. Et lui, avec toute la compétence qu'il avait acquise dans son ministère, et avec tout son caractère, savait qu'il devait partir et qu'il n'irait pas au-delà de la législature et qu'il l'avait dit à Pompidou. Mais on lui avait demandé de garder son ministère pour les quelques mois qui restaient, et bien entendu, une bonne partie de son cabinet avait pris son vol, comme il est de tradition, vers des portes de sortie. Et il avait demandé à sa sœur, Monique, de s'occuper de la musique, dans une espèce d'intérim, dans ce temps d'intérim, étant donné qu'il y avait rue Saint-Dominique, à la direction de la musique, Marcel Nordowski, qui s'en occupait très efficacement, et avec beaucoup d'énergie et des idées qui n'étaient qu'à lui. Et Monique m'a appelé au secours en disant « André, il faut que je fasse cela pour Jacques, mais je ne peux pas le faire si vous ne me prêtez pas un peu main forte. » Alors, il s'est trouvé ces circonstances vraiment très, très remarquables, faites exprès pour ainsi dire. Cela se passait au début de septembre, vers le 10 septembre 1972. Ma rentrée des classes était quelques jours plus tard, les emplois du temps étaient faits. J'étais moi-même dans une grande tristesse parce que pour la première fois depuis que j'étais à Strasbourg, on me retirait ma classe terminale, qui décidément n'était pas compatible avec tout le reste de mon enseignement dans les classes préparatoires. Je restais donc avec simplement 6 plus 4 heures, 10 heures, enfin, qui n'étaient pas réellement suffisantes pour mon appétit de travail, enfin, et pour mon énergie, simplement. Donc, je me trouvais effectivement partiellement démobilisé. Ça aurait été plus facile si la demande s'était faite 3 jours plus tôt, parce que les emplois du temps n'étaient pas encore faits. Mais, bien entendu, le censeur et tout le monde a essayé d'arranger un petit peu les désirs du ministre. Et avec l'emploi du temps que j'avais, il y avait en tout cas 2 jours que je pouvais venir passer à Paris, à condition de prendre les trains les moins confortables, d'arriver à Paris en fin d'après-midi ou en début de soirée le lundi, et de prendre le train de nuit le mercredi pour rentrer faire cours le jeudi matin, alors que j'avais du temps libre le vendredi. Je veux dire, on aurait pu quelques jours plus tôt simplement arranger les choses autrement, mais voilà, c'était comme ça. Le fait est qu'ils m'ont laissé le faire, et que pour moi ça a été un surcroît, pas de travail, parce que le travail en soi n'était pas considérable, mais enfin un chamboulement total de mon existence. D'abord parce que sur la place même de Strasbourg, je ne parle pas de l'enseignement qui s'en fichait, mais le reste de la place de Strasbourg, et notamment Alain Lombard, qui commençait à devenir patron de l'opéra, qui devenait effectivement Opéra du Rhin, et dont il désirait avoir le total contrôle. C'était important pour lui, c'était de même que c'était important pour le festival, qu'il y ait un homme comme moi qui se trouve dans ce qu'on suppose être une position clé à Paris, mais qui en réalité n'est pas du tout une position clé. La chose qui était drôle, c'est que dans le même moment, Bernard Lefort, qui était un grand copain à moi, avait l'intérim de l'opéra en attendant l'arrivée de Liberman, qui était prévue, elle, pour mars 73, et que Bernard commençait avec La Femme sans ombre et avec la Norma. Mmh. Et moi qui débarque là-dedans, et qui en même temps que je suis affiché, enfin pour mes premières réunions du cabinet, suis affiché pour faire une conférence d'introduction prévue de longue date pour La Femme sans ombre, puisque j'avais dit à Bernard, tu sais, il y a quelque chose que nous avons fait à Strasbourg quand nous avons donné nous-mêmes La Femme sans ombre en 65, c'est qu'on a fait un programme extrêmement important avec des tas d'explications, etc., etc. Et toi, dès ta soirée d'ouverture avec Norma, tu devrais distribuer, enfin faire imprimer dans les programmes ou glisser des fascicules qui les éclairent sur le sujet, sur les difficultés et les facilités, la transparence du sujet, si on a les quelques points de repère. Et brochant là-dessus, j'avais à faire une conférence, bon, et je pense que ça a été la semaine même de mon entrée au cabinet, et une partie du cabinet, non, une seule personne du cabinet y est allée, mais enfin, on peut dire, voilà, on se demandait qui était André Dubeuf, et ben, maintenant on sait. Et cette conférence était tout à fait extraordinaire, parce que c'était la première fois qu'il y avait une chose pareille qui se passait à l'Opéra de Paris. Ça se passait dans la grande salle de l'Opéra. J'étais moi-même adossé à l'inverse de la position du chef d'orchestre, et sur cet endroit, enfin, qui est fragile, parce qu'on peut l'ouvrir, à l'époque on pouvait défaire un verrou et hop, on pouvait par conséquent glisser dans la fosse. Il y avait quand même, au moment de la conférence, 600 personnes dans la salle, ce qui est considérable, et je me suis trouvé là faisant face à l'orchestre plein et à la corbeille pleine, et un petit peu épouvanté. Mais enfin, je savais parler en public, je connaissais le sujet de La Femme sans ombre, voilà. Mais ça a été une entrée assez spectaculaire pour moi à Paris, ce retour dans lequel, d'une part, je faisais mon entrée à l'opéra, et où on y venait pour moi, et j'ai pu faire applaudir Lotte Schön, qui était une survivante de la création, puisqu'elle avait été un des Ungeborene. Et je l'ai fait applaudir par la salle, ce qui était extrêmement bien. Karl Böhm a d'ailleurs dit ensuite à Vienne que si les représentations s'étaient si bien passées et devant un si bon public, très inattendu à Paris, c'est que le public avait été beaucoup plus merveilleusement préparé à Paris qu'il ne l'était jamais à Vienne pour cette œuvre-là. Voilà donc le satisfecit que j'en retire. Alors, au cabinet, je n'avais pas grand-chose à faire parce que de toute façon, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, on ne fait pas grand-chose dans les ministères à part les projets qui sont en quelque sorte lancés politiquement. Et j'y ai appris à l'instant même, j'y ai conforté à l'instant même le scepticisme immense qui est le mien, mais qui est le mien à titre inné, sur l'exercice du pouvoir. J'ai pu vérifier combien de choses se font sans que personne les ait réellement voulu. Et alors même que beaucoup de personnes ont essayé de faire cesser la procédure qui les a cheminées, et combien d'autres qui sont réellement voulus ne peuvent pas aboutir pour telle ou telle raison, et le plus souvent d'ailleurs, parce que la personne qui les a vraiment voulus n'est plus là au moment où il y aurait vraiment moyen de l'acheminer. Mais de toute façon, je n'étais là que d'une manière temporaire. Je savais que j'en avais pour les quelques mois que durerait Jacques. Et je n'avais pas de perspective parisienne par-delà. Je n'avais aucune idée de rentrer dans le monde musical et je n'avais pas le moindre idée que je puisse un jour rentrer dans le monde de la presse qui m'était complètement étranger. Les petites satisfactions que j'ai eues tout à fait au début, c'est à la première de la Norma, où vraiment Bernard Lefort était patron en titre de la maison. J'ai vu Michel Guy arriver en courant et en retard par un escalier et me voir en même temps que Monique Fongoretano entrant dans la loge du ministre, et Michel se précipiter sur Monique et lui dire en l'embrassant « Tu l'as fait revenir !» Voilà. Et c'est de moi qu'il s'agissait, c'est comme si j'étais un messie qui, après une longue absence, redébarquait à Paris. Mais en ce qui me concerne mon travail, je n'avais pas la moindre idée de ce que je pouvais, de ce que je devais faire, et j'ai demandé à Jacques « Mais qu'est-ce que je dois faire ?» Il m'a dit « Tu surveilles Marcel. » Surveiller Marcel, ça voulait dire. Tu regardes de près ce que fait Landowski et tu l'empêches de faire son propre jeu dans la mesure où il sait que moi, je ne durerai pas puisque je m'en vais et lui risque de durer. Donc, tu surveilles Marcel. Point à la ligne. Alors, ma situation était extrêmement précaire parce qu'il n'y a jamais eu moyen de me donner un statut quelconque. Enfin, je ne pouvais pas être conseiller technique puisque je l'étais en même temps que Madame Fongoretano qui, à la rigueur, elle pouvait l'être puisqu'elle n'avait pas d'autre métier. Moi, j'avais toujours mon métier à Strasbourg. Enfin, ça a été très compliqué. J'ai même dû payer moi-même, de temps en temps, les trains que je prenais pour venir. Enfin, j'étais vraiment au Ludion absolument. Mais j'ai redécouvert, je dois dire avec ivresse, je m'entendais bien avec la vie musicale à Strasbourg, l'opéra et les concerts, et j'y étais fort bien traité, en quelque sorte au centre. Mais là, il était évidemment agréable de se trouver au centre de quelque chose quand même beaucoup plus glamour. Bien, donc ça a été une période extrêmement, extrêmement fatigante pour moi, extrêmement frustrante en un sens, parce que je n'étais pas mûr du tout pour l'idée de garder un pied permanent à Paris. À la fois, je me disais, j'y fais une percée et c'est dommage de laisser cette percée se perdre, oui. Mais en même temps, je ne vois pas ce que je pourrais... Ce qui s'est passé, c'est que comme je suis revenu définitivement à Strasbourg au printemps 73, eh bien, eux, à Paris, ont su que j'étais allé que je revenais, ceux de Paris ont su que je revenais à Strasbourg, ceux de Strasbourg ont su que j'étais à Paris. D'une certaine manière, ma double appartenance a été affirmée, je suis devenu sur Strasbourg beaucoup plus important. Et c'est le moment où Lombard, qui très rapidement, je crois qu'il a été la deuxième personne qui soit venue me voir dans mon bureau, parce que il avait effectivement des choses, il avait des choses en tête, il avait besoin d'appui ministériel. Apparemment, il avait inconditionnellement celui de Landowski, mais l'appui de Landowski avait toujours été glissant, en quelque sorte par nature. Donc il était très content à l'idée qu'il ait un interlocuteur et qu'il parlait auprès du ministre. Et puis il y a quelque chose que nous avions fait, nous avons fait cela pendant les derniers mois, on a résolu le problème d'Aix, qui était un problème absolument terrifiant, puisque le festival était dans un état de réelle dégradation, artistiquement, et de ruine, financièrement. Et il s'agissait simplement de le retirer aussi autoritairement et doucement que possible à la tutelle du casino qui faisait encore la pluie et le beau temps. Et bien entendu, du côté d'Aix, ça freinait extraordinairement, puisqu'il savait pertinemment à Aix que Duhamel, qui voulait leur peau, allait partir au mois de mars. Et donc, comme les choses ne pouvaient se faire qu'avec la participation des gens d'Aix, au moins autour d'une table, ils s'arrangeaient pour ne pas venir ou pour venir en retard ou pour décommander. Et il y avait un émissaire de là-bas qui s'appelait Plancher, qui était dans un état de liaison subtile, occulte avec Landowski. On ne sait pas quel genre d'intérêt, enfin il y avait la derrière, mais enfin le fait est que ça a freiné terriblement, et nous n'avons pu obtenir ça que in extremis au moment où réellement Duhamel allait partir, et y faire passer le fort qui quittait cet intérim à l'opéra, et qui est son contrat pour Aix. Et je me revois très bien, enfin, nous étions quatre autour de la d'un côté de la table, et vient un seul représentant d'Aix qui venait là et avec qui il fallait bien qu'on discute, et qui a été très, très rarement le gros et important Monsieur Bertrand, qui était le réel patron du casino. Et je revois Jacques Duhamel disant un jour, ben voilà, nous sommes là autour d'une table, il y a moi qui suis ministre et qu'est-ce qu'il était au Conseil d'État, maître des requêtes ou conseiller au Conseil d'État, Jacques Rigaud, mon directeur de cabinet, qui est maître et qui mène des requêtes au Conseil d'État, Jean Salus, qui est le patron de la Caisse des Monuments Historiques, qui finance tout cela et qui mène des requêtes au Conseil d'État, et André Tubeuf, qui n'est rien du tout, mais qui est la personne au monde en France qui connaît le mieux ces problèmes, et nous sommes là avec un type en face de nous qui résiste, et nous ne pouvons rien faire. Il était furieux. Mais enfin, on a réussi à enlever le morceau. Ça a été une des vraies grosses batailles. Le reste était pour moi des arbitrages entre les gens qui demandaient de l'argent et qui croyaient avoir tous droit à la lune. Notamment à ce moment-là, il y avait un festival de musique moderne contemporaine qui était à La Rochelle. Et où imagine-t-on qu'il y avait un autre festival de musique moderne et contemporaine? À Royan. Et bien entendu, entre Royan et La Rochelle, les choses se passaient extrêmement mal, et il fallait arbitrer. J'ai vu arriver dans mon bureau un jour Harry Albrecht, qui représentait La Rochelle, et le surlendemain, Claude Samuel, qui représentait Royan, et tous les deux disant « On nous a promis, nous avons fait ceci, etc. etc. » Et puis il y avait Orange, et puis il y avait Orange, et il y avait Jacques Bourgeois qui présidait aux Destinées d'Orange, et Jacques Bourgeois qui était un délicieux garçon que j'aimais tendrement, que je connaissais bien. On était souvent à des dîners ensemble chez Jeannine Michaud, qu'il adorait et que lui adorait. Mais enfin, je me trouvais tout de même dans une position différente. Je représentais le ministère, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on m'explique pourquoi on faisait cela et pourquoi on prenait cet argent-là, et quand on le prenait à quelqu'un d'autre. Et forcément, je veux dire que l'argent qu'on dépense à quelque chose, on le retire à un autre endroit et à d'autres bénéficiaires pour qui on aurait pu le dépenser. Bien. Et je dois dire que ça, au moins, enfin, ma conscience, voilà, de citoyen adulte et responsable, et au fond ministériel et gouvernemental, quand on m'y met, je veux dire, oui. Mais comment vous pouvez faire des gamineries pareilles ? Ne pas savoir 2 mois à l'avance ce que vous allez faire et le sortir d'un petit chapeau. Et vous demander au mois de mai si ce ne serait pas intéressant de faire Sémiramis avec Sutherland. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et donc, au dernier moment, les coups qui sont n'importe quoi et les orchestres qu'on fait venir. Donc, bien entendu, Jacques Bourgeois l'a extrêmement mal pris, mais extrêmement mal pris, parce qu'il venait à son ministère, je ne peux pas dire qu'il avait une serviette, comme les gens qui viennent au ministère, il avait un réticule, il avait quelque chose qui avait la forme et la proportion d'une serviette ministérielle, d'un Marocain, si l'on veut, mais qui était réduite d'une bonne moitié. C'est-à-dire, il mettait dedans 3 papiers, il n'y avait même pas un dossier, il n'y avait pas un chiffre, il n'y avait rien. Bon, il se disait, je suis le meilleur, j'ai déjà prouvé que je pouvais faire venir, il avait déjà fait venir la Missa Solemnis, les grands oratorios à Orange, il fallait qu'on lui donne tout. Bon, il ne pouvait pas tout lui donner. Et ça s'est tellement mal passé avec lui que lorsque 2 ans plus tard, je reviendrai à l'appel de Michel Guy cette fois-ci, il enverra à Michel une lettre que Michel m'a donnée. Une longue lettre explicative qui veut dire « Ne le prends surtout pas à ton cabinet, il nous hait !» Je ne haïssais personne, mais enfin voilà. J'ai retrouvé quand même le pari que je n'avais pas envie de... que je n'avais pas envie d'habiter, où je n'avais pas envie de travailler... Mais quelque chose qui m'éloignait très réellement de ce que j'étais en train de constituer à Strasbourg, d'une certaine manière, parce que je commençais à pouvoir y devenir patron du festival. Bon, le festival de Strasbourg était le plus ancien de France, malgré tout, il avait ses lettres de noblesse. S'il y avait quelqu'un comme Lombard marchant réellement avec lui, on pouvait organiser des choses pas mal, et effectivement, pendant les 2 ans où j'en ai été directeur artistique, on en a réalisé de pas mal, notamment un programme entièrement Vienne, dans lequel il y avait à la fois Arnoncourt qu'on ne voyait pas en France et Serkin qu'on n'y voyait pas assez pour un programme absolument viennois, et je veux dire, avec en même temps une symphonie de Mahler que Lombard pouvait faire à la cathédrale, et puisqu'il fallait avoir Colette Herzog là-dedans, au moins qu'elle fasse le livre des jardins suspendus. Ainsi, on avait la certitude d'avoir M. Goléa qui, dans la presse, ne dirait de belles choses, et en tout cas ne nous poursuivrait pas de sa vindicte parce qu'on n'avait pas invité sa femme. Ah, c'est cela tous les problèmes. Et c'était le boom, effectivement, puisqu'à ce moment-là, c'est un détail qui me revient maintenant, Goléa avait un petit festival lui aussi, un festival de printemps à Paris. Tout le monde avait un petit festival, et Landowski était supposé donner de l'argent à tous ses copains, il en avait beaucoup, il n'avait que des copains d'ailleurs, comme on sait, mais enfin, quand on en a trop, on ne peut pas en donner à tous, et surtout on ne trouve pas assez de créneaux pour loger de la musique et faire venir les gens. Et les gens étaient véritablement délirants. Klim voulait organiser un festival Mahler. Klim, sous prétexte qu'il faisait des dessins représentant Mahler. Pourquoi on ne nous donne pas ça? Pourquoi on donne à d'autres et on ne nous donne pas à nous? Pourquoi nous ne pouvons pas faire un festival? C'est à peu près tout ce que j'ai entendu pendant tout le temps. Pendant tout le temps où j'étais comme cela à Paris.
Mais ça vous a quand même... Vous avez quand même tenu pendant...
Ah oui, j'ai tenu, mais enfin...
6 mois, 2 ans?
Moi, non, chez Duhamel, j'ai tenu 6 mois.
6 mois.
J'ai tenu 6 mois, je suis parti quand il est parti, je suis rentré à Strasbourg, et je suis rentré à Strasbourg en 73, au printemps 73, et pendant 2 ans, je n'en ai simplement pas bougé, puisque je ne suis revenu chez Michel Guy que longtemps après sa nomination, des mois après sa nomination, alors que tout le monde pensait qu'il m'appellerait à l'instant même. Il ne m'a pas appelé parce qu'il voulait très évidemment, il voulait faire des choses qu'il savait très pertinemment que je désapprouverais. Enfin, je n'étais pas du tout en puissance de... je n'avais en rien le pouvoir de lui mettre des bâtons dans les roues, ni de le dissuader sur un projet qui lui tenait absolument à cœur, qui était un projet relatif à Boulez et à l'IRCAM. Comme on sait, un projet qui est tout à fait abouti et qui a dévoré simplement le budget... le budget de la musique pour les années à venir. Mais enfin, le fait est que je suis resté alors dans l'attente de cela et concentré sur le Festival de Strasbourg et revenant de temps en temps à Paris parce que j'y avais noué un certain nombre de relations. Et avec l'arrivée de Lombard à Strasbourg et l'installation à pratiquement en permanence des disques Erato, avec qui Lombard a commencé par faire des disques d'orchestre, mais tout de suite il a ambitionné de faire aussi des disques d'opéra qui seront Carmen avec Crespin, Faust avec Caballé, le grand répertoire français avec de grands chanteurs internationaux. Ça a fait venir Garcin, qui était le patron artistique des disques Erato, très souvent à Strasbourg, et Garcin, que je rencontrais très souvent, disait autour de lui à Paris, où il retournait chaque semaine, vous savez, il y a à Strasbourg quelqu'un qui... Bon.
Retrouvez tous les épisodes de ces entretiens sur la page kobuz.com/tubeuf.